Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
Salut à tous, c'est Cyril Morin.
Bienvenue dans la nuit du Mercato, l'émission qui va débriefer les dernières heures du Mercato, et puis ce Mercato, tout court, ce Mercato du mois de janvier, ce Mercato d'hiver, qui fut plus calme que d'habitude, Covid oblige, certains clubs français n'ont même pas bougé du tout, de grande Europe non plus, mais Cyril, il s'est passé tout de même deux, trois petites choses dans cette dernière ligne droite, dans cette dernière soirée, dans cette dernière nuit. On va démarrer par ça, pour les retardateurs, ceux qui étaient devant Eurosport peut-être et qui ont regardé Paris-Nice. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures du Mercato? On va vous résumer ça très vite fait, Cyril.
Ouais, alors on va commencer par ce qu'il va se passer plutôt, puisque le gros mouvement de la nuit devrait être officialisé mardi matin. C'est l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. Il s'est libéré de son contrat avec Arsenal et va donc rejoindre le Barça. Il a passé sa visite médicale. Il était dans les locaux du Barça ce lundi soir. Ça devrait être officialisé mardi, puisque vous le savez, lorsqu'un joueur est libre, il peut s'engager un peu quand il veut dans le club de son choix. Ce sera officialisé donc mardi matin. Martin, un autre dossier qui a beaucoup, beaucoup agité l'hiver barcelonais, c'est Ousmane Dembélé qui finalement va rester au FC Barcelone.
Il va se passer ce qu'on vous a dit. Voilà, il faut un petit peu écouter mercredi Mercato. Hein. C'est-à-dire qu'Ousmane Dembélé va sans doute reste même au FC Barcelone et qui devrait réintégrer normalement l'effectif. Les gros dossiers de cette nuit et de la journée de lundi, c'est évidemment Fèvre et Ndombele qui arrivent à l'OL sous deux formes différentes. Un transfert pour Fèvre, un prêt pour Tanguy Ndombele avec une option d'achat qui avoisinerait les 65 millions d'euros. Autant dire qu'il n'y a pas d'option d'achat parce que Lyon ne peut pas se payer ce genre de luxe. Voilà, donc le départ de Bruno Guimaraes est... voilà, est amorti par ces deux arrivées, même si on en parlera dans la deuxième partie de ce mercredi Mercato, c'est pas tout rose du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il y a eu des mouvements à Brest, un mouvement en particulier à Brest.
Ouais. Le remplaçant de Romain Fèvre, Belaïli, l'international algérien, talentueux s'il en est, qui rejoint donc Brest. Il était libre de tout contrat, donc on va voir ce que ça donne chez les Bretons, mais c'est un profil qu'on attendait depuis quelques années en Ligue 1. Il arrive finalement, donc on regardera attentivement ses prestations avec Brest. En Première Ligue, un club s'est nettement renforcé sous l'impulsion de son nouveau manager, Frank Lampard, nommé ce lundi à Everton, avec les arrivées de Van de Beek et de Dele Alli.
Et deux bonnes nouvelles en Ligue 1. Il reste, alors qu'ils étaient sur le départ, Ekitike, l'attaquant du Stade de Reims, qui est là l'une des belles surprises de Ligue 1 cette année, mais aussi Angelo Fulgini, le meneur de jeu d'Angers. Il reste dans leur club respectif, il reste donc en Ligue 1. Slimani, en revanche, part du côté du Sporting Portugal, ça s'est fait dans les dernières minutes, hein, l'attaquant lyonnais qui part libre du côté du Sporting. Et Enzo Crivelli et l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, le nouvel attaquant, le seul, j'ai envie de dire, hein, quasiment attaquant de l'AS Saint-Etienne. Il faudrait plutôt qu'il marque si Saint-Etienne veut se sauver cette saison.
Toujours en Ligue 1, un départ important du côté du LOSC avec le départ de Reinildo à l'Atlético de Madrid. On sait que ça négociait depuis plusieurs semaines. Ça a fini par être officialisé ce 31 janvier. Donc Reinildo, l'arrière-gauche de Lille, ne sera pas là lors de la deuxième partie de saison et notamment pour affronter Chelsea. Martin, il y a aussi des petits sourires avec le retour au football d'un certain Christian Eriksen qui a signé à Brentford en Première Ligue et qu'on a hâte de revoir sur les terrains. Dernier mouvement, Martin, c'est le départ d'Aaron Ramsey, un des plus gros salaires de la Juventus Turin, en prêt au Rangers.
Ouais, grosse carrière de Ramsey du côté de la Juve. Hein, il a porté beaucoup, bien joué. Voilà, donc là, on a fait le tour de ce qui s'est passé. Ce fut une soirée relativement calme. On s'attendait notamment à un attaquant du côté de l'Olympique Lyonnais. On s'était dit peut-être que Dembélé, Ousmane, il va trouver un point de chute. On parlait du Paris Saint-Germain. Rien de tout ça, donc beaucoup, c'est calme. En revanche, et ça sera la première partie de cette émission, c'est l'arrivée d'Aubameyang au Barça, la surprise du chef. Donc on va parler du Barça, de ce qui s'est passé cet hiver dans la première partie de l'émission. Ensuite, Cyril, on reviendra sur l'autre moment fort de la journée, c'est les arrivées de Fèvre et de Ndombele à Lyon.
Absolument. Lyon qui a redéfini son équipe type en l'espace d'une semaine quasiment, avec Ndombele qui va remplacer numériquement Guimarães et Fèvre qui vient potentiellement déjà remplacer ou Paqueta ou Aouar ou les deux. On parlera un petit peu de tout ça et notamment de la prévision et du plan prévisionnel de l'Olympique Lyonnais pour les années qui viennent. On a l'impression que depuis que Juninho est parti, la stratégie est beaucoup, beaucoup moins claire. Et on terminera, Martin, cette émission avec une petite séquence qu'on aime bien. On distribue les bons points. On pique quand il faut piquer. C'est les top et flop du Mercato en Ligue 1. On parlera des arrivées et des départs dans notre championnat.
Les arrivées qui nous ont plu, les départs qui nous ont donné plus ou le contraire. Restez jusqu'à la fin de l'émission parce que Cyril est énervé. Voilà, je vous dis que ça, Cyril est énervé. Et la Ligue 1 peut et doit trembler. Je peux te dire, tu sais que tu fais faire des cauchemars au directeur sportif.
Ouais, apparemment.
Il paraît que Bruno Carotti se réveille la nuit en hurlant Cyril, Cyril, Cyril. Il paraît. Hein. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit.
Les rumeurs circulent.
On est parti sur le premier sujet. Aubameyang au Barça. Donc, c'est la surprise du chef Pierre-Emerick Aubameyang qui va s'engager avec le FC Barcelone ce mardi. Très honnêtement, celui-ci, ce coup-là, on ne l'avait pas vu venir. Les conditions de l'arrivée d'Aubameyang, il est libéré par Arsenal. Donc, il ne va rien coûter en indemnité de transfert. Il réduit son salaire et il s'assoit sur près de 30 millions d'euros de salaire quand même. Hein. Pierre-Emerick Aubameyang, il a 32 ans, 92 buts en 163 matchs avec Arsenal. C'est un vrai buteur. C'est un homme qui a marqué dans toutes les compétitions. C'est un joueur qui s'est imposé quand même en Première Ligue. Alors oui, il a 32 ans. Et c'est surtout un joueur qui avait, j'allais dire pour seule ambition, non, mais comme rêve absolu, de jouer sous le maillot du FC Barcelone. C'est pour ça qu'il a consenti à des énormes efforts financiers. Cyril, Aubame, au Barça, t'en penses quoi ?
On pense que ce n'est pas naturel au premier abord. Alors, tu l'as dit, pour définir Aubameyang, il y a le mot but qui vient tout de suite instantanément. On sait que c'est ce qui a manqué énormément au FC Barcelone cette saison, de par les absences de Memphis Depay. Souvenez-vous de la campagne européenne du Barça qui s'est achevé dès décembre simplement parce que les Blaugrana ont été incapables de marquer. Donc Aubameyang, c'est l'assurance entre guillemets d'un joueur qui marque des buts. Il va falloir voir dans quelle forme il arrive au FC Barcelone. Il a été mis à l'écart avec Arsenal en décembre, si je ne m'abuse. Donc il est a priori encore en condition pour jouer. Ça fait pas 6 mois qu'il n'a pas joué. Après, en termes d'ADN pur et dur, le mariage n'est pas si évident que ça. Martin, au début du mercato, on avait beaucoup parlé des pistes de Xavi pour son attaque. Il y avait eu Werner qui avait circulé, Cavani, Morata. Voilà. On savait que le Barça se cherchait notamment plus un neuf de surface, un joueur à même de remplacer Sergio Aguero. Finalement, c'est un neuf à valeur d'espace qu'ils ont été chercher, alors que le Barça joue plutôt en attaque placée, même si c'est plus compliqué ces dernières saisons. Donc sur le profil, une grosse, grosse surprise. Après, Aubameyang, mine de rien, c'est un apport premier à l'équipe première et un joueur qui met des buts que le Barça n'avait pas ces dernières semaines.
Moi, je vais prendre le package global, c'est-à-dire tous les joueurs qui sont arrivés au FC Barcelone cet hiver. Donc Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, et il m'en manque un, me semble-t-il.
Dani Alves,
merci. On n'est donc que sur des joueurs qui sont en échec sportif. Alors, ils n'ont pas coûté très cher, hein, hormis Ferran Torres qui a coûté 55 millions d'euros. Les autres n'ont rien coûté. Mais voilà pourquoi, parce que c'est des joueurs qui sont en échec sportif. Dans l'absolu, ce sont des bonnes affaires. Je ne pense pas que ce soit de bonnes affaires pour le FC Barcelone, comme tu l'as dit. On est quand même passé en 6 mois de Dembélé, Agüero à Adama Traoré, Aubameyang. Parce que finalement, s'ils arrivent Traoré, je pense qu'il arrive pour anticiper le départ d'Ousmane Dembélé qui sera en fin de contrat dans 6 mois, qu'Aubameyang est là pour remplacer Agüero. Franchement, je ne suis pas sûr qu'on y gagne au change. Ce sont deux joueurs, comme tu l'as dit, qui ne correspondent pas vraiment à l'ADN du FC Barcelone. On est très loin de ce que je pensais que Xavi allait faire. Mais on en est très, très loin. C'est-à-dire ressusciter l'ADN du FC Barcelone. Alors, peut-être pas ressusciter Tiki-Taka, mais enfin, quelque chose qui y ressemble. On en est très très loin avec Aubameyang, on en est très 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 loin avec Traoré. Et on est un peu sur la même logique que Depay, c'est-à-dire un joueur en fin de contrat, Depay qui arrive, c'est un bon joueur, il va peut-être marquer des buts. Est-ce que ça bonifie vraiment le collectif du FC Barcelone? Est-ce que le FC Barcelone a vraiment besoin de joueurs comme ça? Est-ce que le Barça sera meilleur avec eux? J'ai pas de réponse à ces questions et donc c'est pas bon signe. On est quand même le FC Barcelone, c'est quand même le FC Barcelone. Recruter des joueurs tels que ceux-ci, ça en dit beaucoup de la déliquescence sportive et du manque d'attractivité du FC Barcelone. En un an et demi, on est passé de Griezmann, Messi, Suarez à Depay, Aubameyang, Traoré. Voilà, c'est toute l'ADN du Barça qui se transforme en fait. Et moi j'avoue que je n'ai absolument rien contre Aubameyang. Vraiment, je trouve même que parfois il est un peu d'ailleurs moqué, qu'il n'est pas toujours estimé à sa juste valeur. En revanche, s'il y a un club où je ne l'aurais pas mis, c'est au FC Barcelone, surtout sous Xavi. Donc voilà, pour moi c'est un mercato. Ils alignent des noms, ils alignent des super noms, des joueurs en fin de contrat. Quelle est la logique, quelle est la direction? Je comprends pas. Ouais,
c'est ça, c'est contre nature. En fait, c'est très paradoxal parce que sur le court terme, il faut se souvenir de là où vient le Barça cette saison quand même. C'est quasiment les jeunes issus de l'équipe de jeunes qui ont porté le Barça sur la première partie de saison. Sur le court terme, l'effectif, il est amélioré parce qu'il y a Aubameyang, parce
évidemment
qu'il y a Traoré, parce qu'il y a Torres, parce qu'il y a de l'expérience qui manquait un petit peu parfois avec Dani Alves, et surtout à un poste faible, entre guillemets, du FC Barcelone, ou en tout cas identifié comme tel par Xavi. Après, comme tu l'as dit, le souci de ces joueurs-là, c'est que c'est des opportunités de marché. Mais derrière, ça peut aussi se transformer en boulet dans les mois qui viennent. Regardez ce qu'on ne cesse de répéter depuis des mois et des mois quand on parle du FC Barcelone, à savoir, ils ont pris des joueurs, ça ne colle pas, et 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, on en est à devoir les revendre et s'en débarrasser. Sauf que ces joueurs-là, personne ne les veut parce qu'ils sont en échec sportif au Barça, parce qu'ils ont des salaires importants. Alors, peut-être que là, les salaires, étant donné le fair play financier de la Liga, il y a un certain plafonnement. Il n'empêche que ces joueurs-là apportent une plus-value à court terme, à moyen et à très long terme. Pour installer un projet, comme c'est le cas pour Xavi, on se demande vraiment quelle va être leur place. Et encore une fois, souvenez-vous que l'été prochain, la priorité numéro 1 de Joan Laporta et de Xavi, c'est de recruter un numéro 9 d'envergure, un certain Erling Haaland dont on a déjà longuement parlé dans Mercredi Mercato. Bah voilà, si vous avez Aubameyang, Depay et Erling Haaland pour un même poste, ça fait un peu beaucoup et j'ai comme l'impression que Aubameyang, il sera pas aussi facilement vendable que ça à 32 ans et rien ne dit finalement que sur les 6 mois qui viennent, ils prennent feu.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on recrute des joueurs, mais on recrute alors qu'ils sont libres ou en fin de contrat ou peu importe, on leur donne des salaires à ces joueurs-là. Donc, mine de rien, ça gonfle quand même la masse salariale. C'est une question de profil, c'est une question de projet, oui. C'est une question de direction. Et sur ces profils-là, je ne vois pas où ça nous mène. Alors, Traoré est peut-être l'exemple le plus criant. C'est quand même...
Le FC Barcelone. Il forme à la Masia au départ, mais bon.
Non, mais c'est quand même le FC Barcelone, donc vainqueur de la Ligue des Champions 2015, qui recrute un joueur qui est en échec sportif du côté de Wolverhampton. Ça dit tout aussi de l'état même sportif, de la situation sportive du FC Barcelone aujourd'hui. C'est comme quand ils vont recruter Braithwaite. Bon, on se dit Braithwaite, ça ne marchera pas. Ou si ça marche du côté du FC Barcelone, ça veut dire que le FC Barcelone est tombé bien bas. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui, Braithwaite. Donc voilà, c'est toutes ces décisions qui sont prises qu'on a du mal à comprendre. À la limite, avec Xavi, bah voilà ce que tu disais, tu reconstruis, tu repars de zéro, tabula rasa, tu repars avec les jeunes, un nouveau cycle et tu donnes du temps. Là non. Et tu t'empiles des joueurs. Voilà. Oui.
On ne va pas se mentir, Martin, aussi sur les joueurs et les profils ciblés. Alors, Ferran Torres, il sera là pour quelques années. Il peut dépanner au poste d'ailier, etc. Là, il y a quand même 3 joueurs offensifs qui viennent au FC Barcelone. Alors, oui, il manquait des buts, mais il manquait aussi d'autres choses au FC Barcelone, notamment derrière, où c'est pareil. Il va falloir à un moment aller chercher des défenseurs. Et aussi, et ça aussi, Xavi, ce sera sa mission première, penser à la suite, préparer potentiellement l'après-Piqué, l'après-Busquets. On a l'impression que c'est un mercato, ouais, on l'a dit, d'opportunité, mais dans 6 mois, les mêmes questions vont se reposer et que ce mercato d'hiver n'a absolument rien changé, si ce n'est améliorer à très, très, très court terme l'effectif.
On passe à l'Olympique Lyonnais, mon cher Cyril.
Allez.
L'Olympique Lyonnais qui a largement animé cette dernière journée du mercato en annonçant les arrivées à la fois de Fèvre et de Ndombele, ce qui était plutôt inattendu pour le coup. Ouais. Le départ aussi, même si c'est plus anecdotique, d'Islam Slimani. On va se poser une question très simple, c'est est-ce que pendant cet hiver, pendant ce mois de mercato, l'OL s'est renforcé? On rappelle les départs de Guimaraes, Slimani et Marcelo, les arrivées de Romain Fèvre et de Tanguy Ndombele. Est-ce que pour toi, Cyril, Lyon a fait un bon hiver sur le marché des transferts?
On en revient. En fait, la question centrale, c'est toujours celle de Bruno Guimaraes. Alors, le nom de Tanguy Ndombele, effectivement, vu comme ça, c'est inespéré. Voilà. Il y a une semaine, je pense que même les dirigeants lyonnais ne pensaient pas du tout à cette possibilité-là. Donc, remplacer Guimaraes par Ndombele, je ne sais pas si l'OL aurait vraiment pu faire mieux à très court terme, en tout cas par le laps de temps. Le souci du cas Ndombele, c'est que c'est un pansement à court terme. On sait qu'il vient prêter pour 6 mois. Et que l'option d'achat, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, elle est à 65 millions d'euros selon les affonds de Téléfoot. L'OL ne mettra pas cet argent-là pour acheter Ndombele, même s'il met 40 buts en une demi-saison. Donc, ça va être du court terme. C'est quand même bien remplacé parce que Guimaraes Cacré dans un double pivot, ça a un petit peu plus de sens. C'est un petit peu plus déséquilibré quand même que Guimaraes.
Ndombele-Cacré, tu veux dire
Ndombele-Cacré, pardon, ouais, dans un double pivot, c'est plus déséquilibré que Guimaraes-Cacré, mais avec le ballon, on sait où ça va et on voit à peu près comment Boss pourrait s'en servir. Fèvre, on a aussi plutôt l'impression que c'est une opportunité de marché plus qu'un vrai apport pour les 6 mois qui viennent. Fèvre, c'est le remplaçant de Aouar et ou de Paqueta. Il vient parce que l'OL avait l'occasion de mettre de l'argent dessus dès cet hiver et donc de griller l'éventuelle concurrence l'été prochain. Est-ce que Fèvre va beaucoup, beaucoup jouer en deuxième partie de saison? J'en suis pas convaincu. Et s'il joue beaucoup, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour d'autres, notamment Ryan Cherki. Donc, je suis très nuancé sur le fait de savoir si l'OL s'est renforcé. Il a quand même récupéré Tanguy Ndombele qui, s'il est au niveau auquel il était à l'époque de l'Olympique lyonnais, c'est quand même un vrai gros coup. Et Fèvre, qui est un joueur qui peut être décisif. Donc oui, malgré tout. Mais j'attends de voir ce que ça va donner et comment Peter Bosz va mettre ça en musique.
Ndombele va donc jouer 4 mois, hein, février, mars, avril, mai. Voilà. Fèvre, il arrive à un poste où ça affiche déjà complet, hein, puisqu'on peut parler de Shaqiri, de Cherki, évidemment, de Paqueta, mais aussi de Reina Adelaide. Donc, en fait, tu tues quelqu'un qui est déjà en place. C'est-à-dire, le message envoyé je pense notamment à Cherki, le message envoyé à Cherki, il lui reste 1 an et demi de contrat. Guimaraes s'en va. Donc Guimaraes, a priori, c'est un joueur qui ne joue pas à son poste. Ryan Cherki, ce n'est pas un concurrent direct. Il s'en va et le seul que tu recrutes, donc tu mets de l'argent, 15 millions d'euros, c'est un investissement pour l'Olympique lyonnais, c'est un joueur qui joue à ton poste. Je me mets à la place de Ryan Cherki. Si on voulait lui barrer la route, on ne s'y serait pas pris autrement du côté de l'Olympique lyonnais. Donc ça, c'est déjà très dur à encaisser pour Cherki. Au-delà de ça, pour moi, le gros échec, c'est Lyon avait démarré ce mercato, devait recruter un attaquant. C'était ça, l'objectif principal. C'était pas de perdre son joueur le plus régulier, qui est Bruno Guimaraes. Alors oui, il est très bien vendu, mais c'était de recruter un attaquant. Résultat, Azmoun, qui était quand même l'objectif prioritaire numéro 1, tout le monde avait communiqué là-dessus, ils se le sont fait souffler par les Verkusen, en plus. Donc, voilà, ça c'est un vrai échec du côté de l'Olympique lyonnais. Donc pour moi, le mercato, il ne peut pas être réussi en ce sens-là. Je n'ai aucun doute que Ndombele pourrait apporter beaucoup de tranchants, une vraie épaisseur au milieu de l'Olympique lyonnais. Je n'ai aucun doute que Romain Fèvre soit un très bon joueur. En revanche, on est encore là dans la stratégie, dans le projet que met en place l'Olympique lyonnais. Et là, j'ai beaucoup plus de mal à voir les choses.
Ah, Martin, il y a quelque chose de tout simple si on veut parler de la planification à l'Olympique lyonnais, c'est de se pencher sur les fins de contrat qui arrivent à Lyon. Alors, à l'été 2022, donc le prochain mercato, Emerson va repartir de son prêt, a priori, et donc retournera à Chelsea. Ndombele, on l'a dit, l'option d'achat est inatteignable pour l'Olympique lyonnais et donc va retourner à Tottenham. De Nayer est en fin de contrat, il n'a toujours pas à prolonger avec Lyon. International belge, plutôt dans la force de l'âge, il ne devrait pas manquer de propositions, possiblement et sportivement et économiquement.
Et c'est ton meilleur défenseur. C'est ton meilleur défenseur.
Ouais. Cette saison, c'est plus compliqué, mais oui, effectivement. En tout cas, c'est le plus régulier depuis bien longtemps. Donc lui aussi, De Nayer, a priori, il devrait trouver mieux que l'Olympique lyonnais. Ça, c'est pour 2022, uniquement. En 2022, on peut aussi imaginer que un certain Lucas Paqueta, qui est la valeur marchande la plus élevée de l'Olympique lyonnais, prenne la poudre d'escampette parce que c'est le sens de l'histoire, parce que Juninho n'est plus là, parce qu'il a perdu son meilleur ami Bruno Guimarães dans le vestiaire. Donc finalement, le fil qu'il tenait un petit peu, le fil émotionnel qu'il tenait à Lyon, va se disloquer. Si Lyon n'est pas européen, l'intérêt pour Paqueta de rester à Lyon, on le voit mal. Et puis Lyon va pouvoir, mine de rien, toucher une belle somme dessus. Donc, été 2022, Emerson Ndombele donné hier quasiment acquis et très probablement Paqueta. Martin, été 2023, là, c'est une hécatombe. Je vais te laisser donner la liste parce que c'est un carnage.
Donc, ce qu'il faut dire, donc il reste un an et demi.
Ouais.
Et ce que nous disent les directeurs sportifs, c'est qu'à un an et demi de la fin des contrats, c'est là où Lyon, enfin, c'est là où le club doit prendre une décision. Soit il prolonge le joueur, soit ça vend. Parce que s'il ne reste plus qu'un an de contrat derrière, c'est le club qui est fragilisé, c'est le club qui est pris en otage et c'est les joueurs qui tiennent les rênes. Donc, quand il te reste un an et demi de contrat, c'est une situation assez délicate. À l'été 2023, les contrats de Aouar, Cherki, Dembélé, Kakré, Lopez, Thiago Mendes, Boateng et Da Silva, qui est un joueur de complément, mais tout de même, tous ces joueurs-là arrivent en fin de contrat. Donc, dans l'année et demie qui vient, on a 8 des 11 titulaires de l'Olympique lyonnais dont les contrats arrivent à échéance. Lyon était un club qui avait, et on l'a loué, mais je ne sais combien de fois dans cette émission, Lyon était le club qui avait toujours un coup d'avance. Et là, Lyon est le club qui a deux coups de retard. Et courir derrière, c'est jamais bon. Donc, c'est une vraie difficulté qui va être devant, qui s'annonce devant l'Olympique lyonnais. D'autant que tu perds quand même, pour moi, Bruno Guimarães. Déjà, il avait un contrat long. Et puis, il pouvait incarner quelque chose dans cet Olympique lyonnais. Milieu de terrain, hyper régulier, international brésilien. Il portait en lui quand même ce qui restait des ambitions de l'Olympique lyonnais, de l'éclat de l'Olympique lyonnais, des réussites de Juninho aussi, parce que c'est une vraie réussite de Juninho, des réussites du mercato, il n'y en a pas eu non plus des milliers ces dernières années. Et il pouvait incarner le futur, il y avait un visage, quoi. Bon, il est parti pour 50 millions d'euros, on l'a dit aussi, c'est une belle affaire, mais il est parti pour 50 millions d'euros et du coup, tu n'as plus cette figure-là. Alors, ça s'annonce, voilà, les jours, les mois qui arrivent pour l'Olympique lyonnais, s'annonce difficile.
Je vais aller un peu plus loin que toi, même Martin, dans le côté image. Tu as parlé des 8 titulaires actuels qui donc arrivent en fin de contrat. Ajoutons-y Paqueta qui, voilà, on l'a dit, a priori, pourrait être vendu en 2022 ou en tout cas, qu'il soit encore là à l'été 2023, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'anormal dans son cas. Et là-dedans, tu perds aussi ta plus grosse pépite, entre guillemets, un peu le fleuron actuel de ton centre de formation, ou en tout cas celui qui est censé devenir un petit peu le symbole de la réussite lyonnaise avec ce centre de formation qui leur tient à cœur. Donc, je suis d'accord avec toi sur le projet. On a du mal à voir qui va incarner l'Olympique lyonnais dans les saisons qui viennent. L'équipe l'a affirmé ces dernières heures. L'OL s'est penché sur un retour d'Alexandre Lacazette.
Ça pourrait être lui.
Ça pourrait être lui. Il incarnerait quelque chose. Ça dirait beaucoup à la fois du parcours d'Alexandre Lacazette et du manque de sa trajectoire finalement un petit peu ratée. Mais ça dirait aussi quelque chose sur Lyon qui finalement n'arrive pas à tourner la page et ne sait pas faire autre chose que mettre en avant des joueurs du cru, c'est plus compliqué en ce moment, mais faire appel à cette figure un peu tutélaire qu'est Lacazette, pour moi, ça acte définitivement l'échec du projet de Juninho, et de toute façon, le départ de Juninho allait avec ça, mais ça acte aussi le fait que Lyon navigue à vue
et on rappelle,
se rattraper à des branches et à des choses symboliques comme ça. Quoi.
Et le premier élément, c'est Depay qui part l'été dernier pour 0 euro, qui était le meilleur buteur, le meilleur passeur, qui était le meilleur joueur du club, qui est parti pour 0 euro, donc... Voilà, on a l'impression que, c'est ce que je disais tout à l'heure, Lyon a toujours été le club qui, pour moi, gérait le mieux tout ça. En France, alors Paris Saint-Germain, c'est hors concours évidemment, mais disons qu'avec les moyens qu'ils avaient, c'était parfait. Ils allaient recruter des joueurs dans les divisions inférieures ou dans les catégories de jeunes. Et leurs meilleurs joueurs, il y avait un cycle permanent. Leurs meilleurs joueurs étaient vendus à des sommes astronomiques et derrière, il y avait déjà la relève et ça fonctionnait comme ça. Et ça se qualifiait toutes les années pour la Ligue des Champions. Et c'était, alors oui, c'était trop juste pour gagner un titre de champion de France, mais malgré tout, c'était un roulement en tout cas sain et vertueux. On a l'impression qu'il y a un petit truc quand même qui s'est cassé. Quand on voit toutes les fins de contrat, on voit qu'il y a un petit truc qui s'est cassé. Voilà, bah, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage à Benoît Chéroux, à Bruno Chéroux,
Bruno
pardon.
Chéroux.
Ouais, c'est pas Benoît.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé d'un autre fait majeur aussi potentiellement, c'est que le Capitaine Boss, bah, potentiellement fin février, il peut ne plus être l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, ce qui rajouterait encore un petit peu de bazar à l'équation.
Exactement. On termine avec nos top et flop de la Ligue 1.
Allez. Ouais, parce
Alors,
que on avait envie de. Voilà, d'habitude, à l'été, Martin, on fait le fameux carnet de notes.
ouais, mais là, pour qu'il y ait un carnet de notes, faut
Voilà,
qu'il y ait des choses à raconter.
faut qu'il y ait des mouvements. On a donc décidé de vous présenter les tops et flops de ce mercato de Ligue 1. En premier top, Martin, je te propose de parler de l'Olympique de Marseille et de sa gestion très intelligente du mercato. Alors, ce n'est pas un secret. Depuis que Longoria est arrivé, bah, l'OM se régale, entre guillemets, sur le marché des transferts. Là, il y a quelque chose d'audacieux à Marseille, c'est qu'ils ont déjà anticipé l'éventuelle interdiction de recruter qui pourrait frapper l'OM au mercato d'été 2022 et au mercato d'hiver 2023, suite au recrutement de Pape Gay, en faisant venir Gigot, qui est reparti dans son club. Donc Gigot, qui est un défenseur central, qui avait été pendant longtemps sur les tablettes de l'Olympique lyonnais. Et puis, bah, pour renforcer l'équipe première dès maintenant, Bakambu, qui est un, bah, on l'a vu pour son premier match de Ligue 1, qui a marqué. Qui est un attaquant polyvalent, qui apporte autre chose que Milik, et ça c'est intéressant. Et Kolasinac, qui est un piston gauche, qui peut aussi jouer en défense centrale. Donc là, on pense à Luan Perez éventuellement, ou même si Sampaoli veut vraiment passer plutôt à des pistons vraiment défensifs, Kolasinac et Lirola, ça peut marcher. Donc la gestion marseillaise dans ce mercato, à moindre frais. En anticipant la suite, bah, comme souvent, c'est plutôt bien géré et c'est pas un hasard parce que bah, quand on met des joueurs, enfin quand on met des gens compétents à la tête des clubs et à la tête des cellules de recrutement, souvent ça donne des choses intéressantes.
On voulait saluer aussi le mercato bordelais. Le mercato bordelais avec Guy Lavoggi, Marcelo et Amé Dovic. Ce qui est intéressant avec le mercato bordelais, le point faible, c'était la défense centrale. Deux joueurs arrivent, Amé Dovic et Marcelo. Marcelo qui connaît parfaitement la Ligue 1, qui était complètement barré à Lyon. Malgré tout, t'es en galère en bas de classement de Ligue 1, tu veux te sauver, tu prends Marcelo.
Joueur de caractère aussi,
Voilà,
mine
c'est
de
pas
rien.
Paolo Maldini, mais c'est quand
Voilà.
même un mec qui va un peu secouer le vestiaire, qui amène voilà, son caractère, puis qui connaît la Ligue 1, donc c'est pour rien, donc voilà, c'est plutôt pas mal vu. Amel Amedodzic, international bosnien de 22 ans, qui a joué la Ligue des Champions avec Malmö en début de saison, qui a une expérience européenne, qui a une expérience internationale. Et puis Joshua Guilavogui, qui lui aussi était titulaire hein, avec Wolfsburg jusqu'à mi-décembre, qui a joué tous les matchs aussi de Ligue des Champions, milieu de terrain, qui connaît extrêmement bien la Ligue 1, l'ancien Stéphanois. Donc c'est pareil, c'est hyper intelligent. C'est pas des joueurs qui étaient... Alors, Marcelo, oui, il était tricard, et il jouait plus du tout du côté de l'Olympique Lyonnais, mais deux autres ont joué la Ligue des Champions à l'automne dernier. Ils arrivent chez un concurrent au maintien, donc en termes d'attractivité sportive, c'est pas évident. Mais Bordeaux a plutôt fait du beau boulot. Il y a un autre club qui a fait du beau boulot, Cyril, c'est le
Ouais,
Stade
c'est
de Reims.
Reims, ouais, le stade de Reims et l'audace de Reims. Premièrement, parce que réussir à garder Ekitike avec les offres folles qui ont circulé. Alors, on sait que la décision, elle est aussi venue du clan Ekitike qui a décidé de, voilà, de se dire il faut jouer quand même une saison complète avec Reims, club formateur. C'est un gamin de Reims, donc il n'y a pas la volonté de précipiter les choses. Et
C'est très
puis,
bien.
donc garder Ekitike, qui est déjà à 8 buts en Ligue 1 cette saison, qui risque d'en marquer encore plusieurs si je m'avance un petit peu, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est d'attirer Cajuste, qui est un milieu de terrain qui était un petit peu pisté par absolument tout le monde l'été dernier. Il était estimé entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui avait refroidi beaucoup, beaucoup de concurrents. Mais Reims a eu de la suite dans les idées. Ils ont continué à suivre le dossier. C'est un milieu de terrain relayeur, très grand, très fin techniquement, qui vient de Midtjylland. Et c'est typiquement le genre de joueur qui a excité tous les scouts européens. Donc, il y a de la suite dans les idées. Et surtout, Reims a eu l'audace de mettre 5 à 10 millions dessus. Le prix varie en fonction des interlocuteurs. Mais ça dit quand même que Reims n'a pas peur de croire en ses idées et d'aller chercher des joueurs qui étaient a priori inaccessibles pour le stade de Reims. Donc, voir Cajuste à Reims, c'est une vraie curiosité qu'on a envie de voir. Et voir surtout Ekitike rester, bah, c'est l'assurance de marquer des buts pour un club qui lutte mine de rien chaque année pour le maintien et qui réussit chaque année à révéler du monde. Bah, c'est quand même un très très bon mercato.
Il y a un autre club qui lutte pour le maintien, mais là on passe dans la catégorie flop. C'est l'AS Saint-Etienne, 20e, et qui ne nous a pas impressionné pendant ce mercato d'hiver. Alors il y a eu beaucoup de mouvements. Le tout, c'est pas de recruter, c'est de bien recruter. Alors, c'est compliqué de juger avant de voir ce que ça va donner, mais l'AS Saint-Etienne avait besoin d'un buteur, d'un homme qui enfile les buts. Ils ont recruté un joueur qui n'a plus marqué depuis 46 matchs et depuis le 13 décembre 2020. C'est Enzo Crivelli. Alors Crivelli, c'est un guerrier, c'est un joueur qui se bat. Effectivement, il a un état d'esprit irréprochable. Maintenant, il va falloir marquer. Et quand un attaquant reste sur 46 matchs, parce que 46 buts, ça irait.
Ouais, ça aurait été pas mal. Ça aurait été
pas mal. Mais 46 rencontres sans trouver le fond des filets, il y a de quoi un tout petit peu douter. Mais il n'y a pas que ça. Salatube, danger. On a vu déjà, il est rentré en jeu. On sent qu'il a perdu un petit peu le mojo, hein, la confiance, lui aussi. Niagnon, là aussi, il y a un tout petit doute sur sa forme. Lui qui n'a pas joué depuis des mois et des mois. C'est la même chose pour Eliakim Mangala, qui pour le coup, lui, est plutôt fit, nickel, pas de problème. Mais lui aussi, il y a un vrai doute, hein, puisque ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué et qu'il était il était lui aussi en échec sportif du côté de Valence. Alors, Sako qui revient, ça c'est pareil. C'est un peu incompréhensif, mais après tout, pourquoi pas, ça fait un an hein, qu'il n'avait pas joué. Donc voilà, alors la seule bonne nouvelle, c'est Bernardoni qui a fait plutôt des bons matchs jusqu'ici avec l'AS Saint-Etienne, qui apporte de l'expérience à un poste clé. Parce que ce soit Bajic et Green sont des gardiens très verts, des gardiens très jeunes. Bernardoni aura peut-être les nerfs un peu plus solides pour cette fin de saison. Mais alors, mis à part lui, du côté de l'AS Saint-Etienne, j'ai quand même de gros doutes sur ce mercato-là.
Autre flop, Martin, mais alors celui-ci, on aurait pu l'écrire dès le 1er janvier.
C'est clair.
C'est les ventes au Paris Saint-Germain et Leonardo qui confirme que décidément, ce n'est pas du tout sa spécialité. Paris qui devait, si tant est que le fair play financier existe vraiment, mais en tout cas, vu qu'il a été mis sur pause, même pour son équilibre financier, devait vendre absolument pour 50 à 100 millions d'euros sur ce marché d'hiver. Bah, résultat, les ventes elles s'élèvent à zéro. Alors, ils se sont débarrassés de Rafinha et de Sergio Rico qui ont été prêtés. Il y a également le jeune Kenny Naguera qui a été prêté. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'échecs et de joueurs qui n'ont pas voulu partir du Paris Saint-Germain. Paredes, Kurzawa, Herrera, qui à un moment était cité du côté de l'Olympique.
Wijnaldum.
Wijnaldum.
Icardi.
Ça a l'air conséquent. Icardi. La liste, elle est en fait tous les joueurs, même Bernat, qui est apparu dans les dernières heures du côté du FC Barcelone. Donc voilà, bah c'est une longue litanie et à chaque mercato, on se répète, mais Paris qui ne vend pas, à un moment, ça va commencer à poser vraiment problème. Mais ça prouve à la fois que Leonardo est mauvais vendeur et surtout que la soupe est très, très bonne au Paris Saint-Germain et que les joueurs, bah, finalement, n'ont aucun intérêt à quitter un club où on vit bien, où les résultats sont là et a priori, les chances de gagner des grands titres existent, étant donné qu'il y a quand même des grands joueurs dans cette équipe. Donc, bah, mercato flop pour la vente du PSG cet hiver.
Et on termine avec l'inaction de Lorient au poste de gardien de but. Lorient qui est en grosse difficulté en Ligue 1, 19e, et donc en l'état descendrait en Ligue 2, et qui a fragilisé un poste clé. Alors, ils ont recruté dans les dernières heures du mercato un attaquant, Ibrahima ouais. Koné, un Malien qui marque beaucoup de buts avec sa sélection, notamment la CAN. Mais ils ont fragilisé Nardi, en cherchant un gardien, on a parlé de Burki notamment pendant
Mandanda
très longtemps.
Aussi.
Mandanda aussi. Burki, c'était la dernière news hein, de ce lundi. Ouais. Finalement, ils n'ont trouvé personne. Donc, le double effet, il est terrible. C'est-à-dire qu'un, tu n'as personne et deux, tu as fragilisé Nardi qui, a priori, aurait appris dans les journaux que son club lui cherchait un successeur. C'est vrai que Nardi est en difficulté depuis le début de saison, mais ça ne va pas l'aider, cette histoire-là. Donc Lorient a joué un jeu risqué, ils ont perdu ouais. Et ça pourrait leur coûter un peu plus qu'un gardien sur cette fin de championnat. Voilà, c'est pas très adroit du côté de la cellule de recrutement des Merlus. Voilà pour les tops et les flops de ce mercato d'hiver, mon cher Cyril. Et heureusement que l'hiver se termine, parce que pour ceux qui regardent la vidéo, tu es blanc, mais comme jamais. Donc, vivement
C'est
l'été que
l'horaire
tu.
tardif, Martin, c'est l'horaire tardif.
Vivement l'été que tu
Mais
reprennes
vivement
un
le
petit
soleil
peu
un petit peu, c'est ça.
de. Ouais, que tu reprennes un petit peu de couleur parce que là, on est inquiet. J'ai reçu à l'instant, un SMS de ta maman qui s'inquiète, Cyril. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Il faut qu'il dorme. Non, il faut qu'il prenne le soleil, Cyril. Hein. Donc voilà, donc l'hiver s'est terminé. Place au printemps. Mercredi Mercato reviendra sans doute au beau jour. Avril, mai, juin, juillet, août. En attendant, merci Cyril.
Bah merci à toi, Martin, pour ce mercato hivernal finalement assez animé. Ah si, les dossiers d'Embélé, voilà, il y a eu des choses, on parlait plus pour l'été prochain, mais il y a quand
Exactement.
même eu des choses.
L'été prochain va être fantastique. Hein.
Ah par
Mbappé,
contre, ouais.
Drogba, Dembélé, on va se régaler. Merci Simon à la réalisation ce lundi tard dans la nuit. Merci à Quentin pour les visuels. On vous rappelle que vous retrouvez tous les podcasts d'Eurosport hein, sur les bonnes plateformes. Tous, Deep Impact, FC Stream Team, du rugby, du vélo, du foot, il y a tous les sports.
Il y a les JO dans quelques jours sur
Les JO dans
Eurosport.
quelques jours exactement avec l'Heure Olympique. Qui sera un podcast quotidien. Donc venez, notez-nous et régalez-vous. Ça s'écoute de partout, dans la salle de bain, en prenant sa douche, en faisant le petit gigot d'agneau dans la cuisine, ou sur une autoroute en ne dépassant pas les limitations de vitesse, s'il vous plaît. Ça s'écoute partout, les podcasts d'Eurosport. Donc écoutez-nous. Et si vous voulez voir nos bobines, c'est évidemment sur eurosport.fr. Merci à tous.
Salut.
Merci Cyril, t'as pas été très vif sur cette petite relance, mais c'est
Non,
pas grave.
c'est la
À
fin de soirée.
bientôt et ciao à tous.
Salut tout le monde.